Clément Rosset, Le Réel et son double, une émission proposée par Raphaël Antoven.
C'est à la fois le plus réfléchi de mes livres et un livre que j'ai écrit dans un état de... comme tout mon tout premier livre qui était délirant, un peu de hallucinatoire, vous voyez. Pourtant, c'est très contrôlé. Je ne me laisse pas aller, je ne veux pas faire de grandes phrases. Un des rares livres où je ne sais pas te faire rire, là, par la suite, j'ai exploité les aspects cocasses que peut représenter cette critique d'illusion associée au double. Mais en même temps, je dois vous dire, alors c'est une imagerie romantique, évidemment, qui est un peu absurde, mais j'ai vraiment eu le sentiment, par moment, que c'était pas moi qui écrivais, en fait. D'ailleurs, c'était un livre tout à fait nouveau, j'avais jamais parlé de ça, hein. Ça m'a pris comme un avènement. Et pendant toute la période où j'ai écrit ce livre, qui était court, parce que c'est un livre court, mais j'écris très lentement, hein, j'ai eu l'impression d'être, en marge du monde, on dîne, mais j'étais dans une bulle, quoi.
J'imagine qu'il était amoureux ou suicidaire, le jour où Parménide s'est dit « tout ce qui est, et tout ce qui n'est pas, n'est pas ». Car rien n'est plus difficile à admettre que cette évidence-là, et il n'y a que l'amour ou le désespoir qui enlève ou donne assez de force pour consentir au réel, à ce qui est, tel que c'est, sans lui chercher d'expédient. Le reste du temps, de Platon à Guy Debord, les hommes excellent dans l'art mécontent de dupliquer le réel et de fuir ce qui est pour adorer ce qui n'est pas. Il y a ceux de mauvaise foi qui se trouvent des excuses et incriminent le destin en se disant « Au-delà de mon existence, de mes actes, trône une vie rêvée, la mienne, celle que je n'ai pas eue mais qui m'était promise et qui peut-être m'attend ailleurs comme la récompense ou le salaire de la malchance. » Mais il y a aussi les cocus, les jaloux, les paranoïaques, les révisionnistes, les théoriciens du complot, toutes ces consciences malheureuses qui croient détenir, comme l'envers du décor, la vérité que d'autres nous dérobent. Il y a Socrate, pour qui la sagesse ou le savoir sont un monde aussi lointain que l'horizon pour le marin. Il y a les nostalgiques pour qui avant c'était le bon temps, à l'image de Rousseau qui oppose l'enfance à l'histoire. Il y a les révolutionnaires pour qui l'avenir c'est l'utopie, et il y a les conservateurs pour qui l'avenir c'est le passé. Il y a les esprits libres à qui on ne la fait pas et qui dénoncent ce qu'ils appellent comme par hasard la pensée unique. Les altermondialistes pour qui un monde autre est possible, ou les marxistes pour qui un autre monde est nécessaire. Il y a les fous qui se trompent de monde et disent n'importe quoi. Mais il y a aussi ceux qui les jugent et les enferment, comme si eux-mêmes ne le méritaient pas. Bref, il y a tous ceux qui pensent que, si les apparences nous trompent, c'est qu'en un sens elles dissimulent la vérité, et qui croient, sans rire, échapper à leur destin, alors que leur destin c'est de mourir, et qu'on est toujours ponctuel à ce rendez-vous-là. Il y a surtout la promesse ordinaire d'un monde qui ne l'est plus, le fantasme fascinant de la table rase, cette façon qu'ont les fumeurs de se dire « demain j'arrête ». Pas de spleen sans idéal. Les hommes ne vivent pas, ils survivent. Et s'ils prêtent au monde une attention distraite, c'est qu'ils se persuadent, les yeux fermés, qu'ailleurs, là-bas, plus tard ou autrefois, il doit forcément exister beaucoup mieux. Ce double, cet ailleurs, ou pour le dire en latin, cet alibi, est d'abord né de la volonté d'être dupe. Le double a surgi de ceux qui voient tout, mais ne veulent rien savoir. Je pense, donc je fuis. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et pourquoi voir clair quand on peut voir double ? Tous les moyens sont bons pour ne pas admettre que le réel est une prison sans barreaux, que l'existence est une impasse terminée par une catastrophe, et que quoi qu'on y fasse, nous sommes faits. Comme le dit Clément Rosset, après Parménide et Spinoza, le réel est idiot, c'est-à-dire simple, unique, indifférent. Le réel est idiot et il n'y a pas de plus grande bêtise, ni surtout de bêtise plus répandue, que de vouloir fuir cette idiotie. On ne demande pas, dit-il, aux philosophes de nous donner des raisons de vivre. De fait, vous n'en trouverez aucune dans Le Réel et son double, ce livre génial dont nous allons parler aujourd'hui avec le philosophe Frédéric Schifter et avec Clément Rosset lui-même. Mais peut-être trouverez-vous, faute de mieux, au gré de ces pages hilarantes et cruelles, de quoi vous satisfaire parfois du monde tel qu'il est et sourire simplement de la vie comme elle va. Clément Rosset commence Le Réel et son double en disant que rien n'est plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité. Et il énumère toute une série de façons dont on s'évade de ce qu'il appelle le réel. Forclusion lacanienne, alcool, drogue. De quelle réalité s'agit-il ? Pourquoi est-ce qu'il s'agirait de la fuir ? En quoi est-ce que ce sont des comportements de fuite ?
Alors, Clément Rosset ne prend véritablement jamais la peine de définir ce qu'est la réalité, tellement au fond c'est une notion évidente, enfin elle lui semble évidente.
Frédéric Schifter.
Elle est si évidente d'ailleurs que moi-même là il m'est difficile peut-être de la définir. Cela dit, je crois que on n'est pas loin de la vérité, de la définition rossettienne de la réalité, si on parle tout simplement des choses de la vie.
Ouais, bon, cette expression des choses de la vie, oui, du reste, les exemples que je donne de cette réalité vont dans ce sens, puisque le cas de Bouboroche, que j'invoque comme le cas de Svan et des doutes qu'il a à propos de la dette de Crécy, intéresse chaque fois la jalousie. Chaque fois, ce qu'il s'agit de refouler, c'est l'admission d'une vérité qui intéresse la vie affective, la vie sentimentale, quoi.
L'existence est la réalité à la fois, bien sûr, la plus évidente, mais aussi celle qui est la plus problématique, la plus inconfortable, et par conséquent, il y a tout un tas de stratégies pour éviter l'existence lorsque elle s'avère, à tort ou à raison, pénible. La force de dénégation de la conscience humaine est terrible, pour le meilleur et pour le pire, en tout cas, pour le plus drôle ou le moins drôle, en tout cas. Alors, Clément Rosset, dans Le Réel et son double, évoque l'œuvre de Courteline, notamment une petite pièce qui s'intitule, je crois, Monsieur de Bouboroche, tout simplement. Voilà. Alors, Monsieur de Bouboroche est un bourgeois qui entretient une prostituée, c'est un homme marié, mais enfin bon, il a une petite danseuse qu'il entretient dans un meublé, il lui rend visite chaque jour, à une heure précise, etc. Il passe un bon moment avec elle, et puis un jour, il est arrêté dans l'escalier de l'immeuble de sa danseuse par un voisin qui lui dit, vous savez, monsieur, quand vous partez, eh bien, votre jeune amie reçoit. Elle reçoit quelqu'un avec qui, ma foi, il semblerait qu'elle passe du bon temps. Et Bouboroche est un peu interloqué, il dit, enfin, pourtant, cette jeune femme est bien sous tout rapport, alors qu'il sait pertinemment qu'il entretient une prostituée, donc il aurait pu songer qu'effectivement elle avait d'autres clients, et comme il a le doute déjà là, qui est en train de cheminer dans son esprit, il décide de rester au pied de l'immeuble et d'attendre, d'observer un peu ce qui se passe à travers les fenêtres de sa petite amie. Et effectivement, il aperçoit en transparence la silhouette d'un homme qui enlace sa jeune amie, Adèle, je crois, s'appelle-t-elle, hein. Et pour en avoir le cœur net, il remonte 4 à 4 les escaliers, frappe à la porte de sa maîtresse, il la découvre en petite tenue, mais seule. Et il lui dit, mais madame, je crois qu'il y a un homme chez vous. Alors Adèle se récrie en disant, mais enfin, mon ami, vous délirez, ce n'est pas possible, regardez, fouillez vous-même l'appartement, il n'y a strictement personne. Et Bouboroche inspecte l'appartement, ouvre l'armoire, comme dans les plus mauvais vaudevilles, et découvre eh bien un type en caleçon, et Bouboroche se retourne vers Adèle, et dit, ah, voyez que vous n'étiez pas seul. Et alors Adèle lui dit, ah, mais c'est de ce monsieur dont vous vouliez parler, mais c'est mon cousin, vous comprenez, c'est mon cousin qui me rend visite tous les jours, enfin, votre cousin est en caleçon, lui fait remarquer Bouboroche. Mais oui, mais nous sommes très à l'aise tous les deux, vous savez, je l'invite toujours à se mettre à l'aise dès qu'il revient à la maison, etc. Bon. Alors, Bouboroche, qui ne supporte pas l'idée qu'il puisse être trompé, finit par admettre la version d'Adèle et dit, oh, excusez-moi madame, j'avais pensé à mal, je reconnais que j'étais idiot, et puis s'excusant pour la dernière fois, donc repart chez lui, mais avant, il s'arrête à l'étage, frappe à la porte du voisin et lui fout son poing sur la gueule en disant, monsieur, vos calomnies sont insupportables, et il repart comme ça en ayant l'impression effectivement que au fond tout est bien. Voilà. Et je trouve que cette histoire est très drôle et elle dit tout de cette force de la dénégation. L'idée que l'on puisse être trompé, surtout par une prostituée, est insupportable parce qu'on pense que, oui, c'est peut-être le lot de toutes les prostituées que de nous tromper, mais pas celle que l'on a choisie, pas celle que l'on entretient. C'est Alceste avec Célimène, et puis je crois que c'est nous tous, enfin nous sommes tous impliqués là-dedans. Nous n'osons pas regarder en face la réalité de la trahison, la réalité de la déception, la réalité la réalité de la contingence, quoi, tout simplement.
C'est-à-dire que ce que dit Clément Rosset, c'est qu'en fait on a tout sous les yeux.
Je ne refuse pas de voir et ne nie en rien la réalité qui m'est montrée, mais ma complaisance s'arrête là. J'ai vu, j'ai admis, mais qu'on ne m'en demande pas davantage. Pour le reste, je maintiens mon point de vue, persiste dans mon comportement, tout comme si je n'avais rien vu. Coexiste paradoxalement ma perception présente et mon point de vue antérieur. Il s'agit là moins d'une perception erronée que d'une perception inutile.
De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre ?
Oh, que ce cœur est double. Et c'est bien l'art de feindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici les yeux. Et connaissez vos traits. Ce billet, découvert, suffit pour vous confondre. Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre.
Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit.
Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit.
Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse ?
Quoi ? Vous joignez ici l'audace à l'artifice. Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein ?
Pourquoi désavouer un billet de ma main ?
Et vous pouvez le voir, sans demeurer confuse, du crime dont vers moi son style vous accuse.
Oh, vous êtes sans mentir un grand extravagant.
Quoi ? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant ? Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour en honte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte.
Honte ? Qui vous dit que la lettre est pour lui ?
Alceste, par exemple, dans Le Misanthrope, voit bien, parfaitement et totalement, que Célimène est une cocotte. Cette perception qu'il accueille chaque jour sans broncher n'est jamais remise en question.
Et pourtant, Alceste est aveugle. Non de ne pas voir, mais de ne pas accorder ses actes à sa perception. Ce qu'il voit est mis comme hors circuit. La coquetterie de Célimène est perçue et admise, mais étrangement séparée des effets que sa reconnaissance devrait, normalement, entraîné sur le plan pratique.
Ciel, rien de plus cruel peut-il être inventé. Et jamais cœur fut-il de la sorte traité.
Quoi ?
D'un juste courroux, je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens à plaindre et c'est moi qu'on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout. On me laisse tout croire. On fait gloire de tout et cependant mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache. Et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris contre l'ingrat objet dont il est trop épris. Ah, que vous savez bien ici, contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent. À vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel.
On peut dire que la perception de l'illusionné est comme scindée en deux. L'aspect théorique, ce qui se voit, s'émancipe artificiellement de l'aspect pratique, ce qui se fait. C'est d'ailleurs pourquoi cet homme, après tout normal, qu'est l'illusionné, est au fond beaucoup plus malade que le névrosé, en ceci qu'il est, lui, et à la différence du second, résolument incurable.
L'aveuglé est incurable non d'être aveugle, mais bien d'être voyant. Car il est impossible de lui refaire voir une chose qu'il a déjà vue et qu'il voit encore. Toute remontrance est vaine. On ne saurait en remontrer à quelqu'un qui a déjà sous les yeux ce qu'on se propose de lui faire voir.
Dans le refoulement, le réel peut éventuellement revenir à la faveur d'un retour du refoulé apparent. Mais dans l'illusion, cet espoir est vain. Le réel ne reviendra jamais, puisqu'il est déjà là.
Tout m'est montré, je perçois, mais en même temps je refuse d'en tirer les conséquences et je refuse ce que je perçois, en quelque manière. De ce point de vue-là, le fait que
Alceste
s'aveugle et veuille s'aveugler devant ce qui doit être pour lui évident est une illustration de plus de cette vérité générale dont nous parlons.
Ce qui veut dire que Alceste est magnifique dans la mesure où il se débat non pas avec l'ignorance sur l'état qui est celui de Célimène, mais avec l'impossibilité de ne pas savoir que Célimène est une cocotte.
Non, moi je crois que Alceste voit très bien qui est Célimène. Il la désire parce qu'elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire une cocotte, une courtisane, pour parler vulgairement, une allumeuse. Elle excite son désir à ce titre, mais, en même temps, il trouve extrêmement pénible que ce soit une allumeuse qui excite son désir et son amour. Par conséquent, il la désirerait autre qu'elle n'est réellement. Il s'imagine que en réalité, elle est bien autre que ce qu'elle est, donc il veut absolument pas se fier aux apparences, alors que c'est justement pour cette apparence-là qu'il la désire. C'est terrible.
Ah, c'est pour cette apparence-là qu'il la désire.
C'est bien, eh bien, bien sûr. Comme d'ailleurs,
c'est parce que Célimène est le contraire de lui-même qu'il la désire.
Mais, évidemment. Mais cette perspective qu'il désirerait cette cocotte parce qu'elle n'est qu'une cocotte blesse dans une certaine mesure son amour-propre. Parce qu'il se compare à ce moment-là à tous les courtisans de Célimène qu'il déteste, et se dire que lui aussi adore Célimène parce que c'est une cocotte comme les autres, c'est une idée qu'il insupporte. Donc Célimène est forcément autre. Donc il invente un double de Célimène, un double idéal, hein. C'est une sorte de cristallisation, enfin c'est ce que Stendhal décrit fort bien aussi, hein. Une sorte de cristallisation, moi je l'aime pour de toute autre raison, alors qu'en réalité il l'aime parce qu'elle est bien Célimène telle qu'elle est, enfin voilà.
Ça veut dire que ce à quoi Alceste essaie d'échapper quand il fait à Célimène le reproche d'être ce qu'elle est, tout simplement, ça n'est pas que Célimène est une cocotte, c'est au désir qu'il peut avoir d'une cocotte.
Voilà.
Donc, ce qu'il essaie de fuir, c'est son propre désir,
bien entendu. C'est pour ça qu'il incrimine constamment Célimène, car elle ne correspond pas à l'idée idéale de son désir.
À l'idée de son désir. Mais en revanche, elle correspond à son désir réel.
Mais à son désir réel.
C'est ça. Donc, en fait, le reproche qu'il fait à Célimène, donc Célimène est innocente. La cocotte est innocente dans cette affaire.
Bien entendu.
La cocotte n'est pas coupable d'être une cocotte. C'est le misanthrope qui est...
Comme toute victime du ressentiment d'un autre.
Allez... De tels soupçons méritent ma colère et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelque bonté. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime.
Oh, prêtresse, mon faible est étrange pour vous. Vous me trompez sans doute avec des mots si doux. Mais il m'importe, il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est tout abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur. Et si de me trahir, il aura la noirceur.
Non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime.
La différence qu'il y a entre la haine et le ressentiment, ça se joue là-dedans. C'est-à-dire que on peut haïr quelqu'un pour des raisons tout à fait objectives, tout à fait réelles. Quelqu'un qui m'a blessé réellement, à qui je puis adresser des griefs, mais qui sont, je vais dire, d'abord de bonne foi, mais parce que tout ça repose sur des faits bien réels, celui-là peut effectivement, à bon droit, mériter ma haine. Et ma haine cessera dès lors que je me serai vengé. N'est-ce pas? Parce que, à mon sens, le tort aura été réparé, bien. Tandis que le ressentiment, c'est poursuivre quelqu'un à propos de mots totalement imaginaires. On ne m'a rien fait, les blessures que j'ai reçues sont des blessures imaginaires, donc ma vengeance ne sera jamais assouvie. Jamais, jamais. Donc quand on est la victime du ressentiment de quelqu'un, on peut être sûr que ce quelqu'un jamais ne vous foutra la paix.
C'est dans ce sens-là que dans la généalogie de la morale, Nietzsche dit que la méchanceté du fort est une invention du faible.
Bien entendu. C'est-à-dire que le faible en veut au fort parce qu'il est fort, alors qu'il ne lui a rien volé. La force du fort lui appartient. La force du fort n'a jamais été volée au faible, puisqu'il est faible. On ne peut pas voler à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Quelqu'un qui vous poursuit de votre ressentiment parce que vous êtes beau et que lui est laid, la beauté que vous avez, c'est la vôtre. Le talent, c'est pareil. Le ressentiment, c'est donc des griefs imaginaires dont on vous accable et donc qui suscite une vengeance qui n'en finit jamais. C'est pour ça que le ressentiment est beaucoup plus dangereux que la haine. La haine s'arrête, justement par la vengeance, si vous voulez. Tandis que, à supposer que l'homme du ressentiment vous liquide, bon, à tous les coups, son ressentiment ira se porter sur quelqu'un d'autre.
Alors, c'est un cas complètement banal et général de refus d'une réalité trop cruelle. Alors, est-ce qu'il s'y ajoute du ressentiment, il s'y ajoute de la rage. Ça, c'est certain. Le fait de rien pouvoir échanger provoque chez Alceste une rage et une sorte de misanthropie permanente. Cependant, c'est pas tout à fait le profil du ressentiment nietzschéen. On ne le voit pas faisant des coups bas, Alceste. Je pense que le refus d'admettre le réel le rend plus enragé qu'un être de ressentiment. Le ressentiment, il se console à sa façon. Il sort de la contradiction en punissant, en quelque sorte. Alceste, c'est plutôt une espèce de piège un peu paranoïaque, je dirais. L'état agressif est-il un être de ressentiment? Les êtres de ressentiment ne sont pas toujours agressifs. Ils sont mielleux, plutôt ils sont gentils. Ils ne parlent que de faire le bien, que tout est bien, et en attendant, ils fomentent des activités destinées à se venger sur le dos d'autrui de leur propre malheur, de passer leur malheur à autrui. Je ne pense pas qu'elle cesse veuille passer son malheur à autrui. Il est vraiment comme une mouche collée à la lumière. Il est dans son piège et il l'est pour toujours. On voit très bien qu'il n'ira pas loin. Une heure plus tard, après que le rideau soit tombé, Alceste sera auprès de Célimène. Et il est trop accaparé par son problème particulier avec Célimène, dont il ne peut pas se dépêtrer, puisqu'il est dans une réduction qui ne peut pas être levée. Puisqu'il faut que Célimène ne soit pas une cocotte, et il se trouve que Célimène est une cocotte. Donc avec ça, il a de quoi faire. Il n'y a pas de terrain pour le ressentiment. Il me semble que vous confondez un petit peu rage et paranoïa avec ressentiment.
Un jour où il se dispose à expédier sa mensualité ordinaire à Odette, qu'on lui avait présentée d'abord comme une femme entretenue, qualité qu'il avait oubliée dès lors qu'il en était devenu amoureux, Swann se demande soudain si l'acte auquel il est en train de procéder ne revient pas précisément à entretenir une femme. Si le fait pour une femme de recevoir de l'argent d'un homme, comme Odette en reçoit de lui-même, ne coïncide pas justement avec le fait d'être ce qu'on appelle une femme entretenue.
Perception fugace du réel, que l'amour de Swann pour Odette a tôt fait de biffer. Il ne put approfondir cette idée, car un accès d'une paresse d'esprit qui était chez lui congénitale, intermittente et providentielle, vint à ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence. Aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes, en essuya les verres, se passa les mains sur les yeux, et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une idée toute différente, à savoir qu'il faudrait tâcher d'envoyer le mois prochain 6 ou 7 000 francs à Odette au lieu de 5. À cause de la surprise et de la joie que cela lui causerait.
Ce qu'on voit dans le réel et son double, et ce qui est décrit de façon absolument lumineuse, c'est que le problème d'Alceste ou de Swann n'est pas de découvrir la vraie nature de Célimène ou de Odette, mais c'est de savoir comment faire pour ne pas avoir découvert ce qu'ils savent de toute façon. Et Clément Rosset dit ceci, il dit, leur problème, ça n'est pas de ne pas voir, c'est de voir double. Ce qui est une autre forme de cécité. Et à partir de cette cécité, le fait de voir double, donc qui est une cécité supérieure à l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a plus d'aveuglement dans le fait de savoir sans vouloir savoir que dans le fait d'ignorer. Et à partir de là, Clément Rosset fait la généalogie de, en somme, toute la métaphysique qui subordonne notre monde sensible à un autre monde. Donc toute la métaphysique qui voit double elle-même en faisant de ce monde-ci réel, bien réel, cette table, la table autour de laquelle nous nous trouvons est bien solide et bien là, une pâle copie d'un monde qui lui serait soustrait aux turpitudes qu'on est obligé de vivre ici-bas.
Je pense que Clément Rosset renoue avec ce qu'on appelait la philosophie du soupçon en s'arrêtant sur un mécanisme propre à la conscience humaine qui est celui du désir. Le désir est une sorte d'handicap de la conscience humaine. C'est là où gît la dénégation. Alors, le désir est bien sûr désirant, en ce sens que il recherche un objet, il recherche un quelque chose qui viendrait, bien entendu, nous satisfaire, mais aucun objet dans le réel, malheureusement pour le désir, ne vient le satisfaire. Aucun objet n'est satisfaisant. Tout objet est décevant. Il y a un besoin atteint d'une pathologie qu'on appelle le désir, qui est en quête d'un objet susceptible de le satisfaire. Or, malheureusement pour ce besoin-là qu'on appelle le désir, aucun objet n'est satisfaisant. Par conséquent, il y a une quête infinie d'objets, de recherches. Alors, on se retourne vers ci, vers ça. Tout ça ne nous semble pas satisfaisant. Donc, on repart dans une autre direction. Et l'insatisfaction est toujours au bout du désir. Alors, il y a quand même une solution qui n'en est pas une, mais qui provisoirement peut permettre au désir de s'imaginer qu'il est satisfait, c'est le double. C'est le double.
Vous avez raison. La pensée, précisément, est commandée par le désir. Les idées sont le fruit du désir. Mais alors, évidemment, il faudrait analyser le désir et se demander pourquoi il y a des désirs qui tournent mal et des désirs qui tournent bien. Je veux dire par là que quand un désir tourne à une philosophie de la duplication, du ressentiment, ce n'est pas forcément que le désir ne trouve pas de satisfaction. De même qu'il y a des philosophes de l'affirmation pure dont on ne peut pas dire qu'ils ont été dans leur vie comblés. Quand le désir tourne mal, c'est pas parce que la vie est malheureuse. Quand le désir tourne mal, c'est que il y a un phénomène d'insatiabilité qui fait que l'ampleur du désir ne trouve pas sa pitance dans les fruits offerts par la réalité. C'est le cas de Mallarmé. Ma faim qui n'est d'aucun fruit ici ne se régale. Alors là, il y a un phénomène très mystérieux, c'est de trouver son content dans le menu ordinaire de la vie, même lorsqu'il est plein d'épines et de mauvais potages, et de ne pas trouver son content dans la vie alors que on a tout. Les femmes, l'argent, la puissance, et on ne se contente pas. Autrement dit, l'échec du désir, c'est pas d'avoir ce qu'on désire ou de ne pas avoir ce qu'on désire. L'échec du désir, c'est de ne jamais trouver son contentement. Ne pas trouver son content dans le peu de bien qui vous est donné au cours d'une vie est une chose. Le fait de considérer que le bonheur ou que la satisfaction de tous les désirs aboutit à un univers ennuyeux, c'est tout de même autre chose. Enfin, c'est une manière, première réflexion, le monde double, le monde idéal, le monde vraiment réel, le monde idéal de Platon, je ne sais pas s'il n'est pas ennuyeux encore plus. De même qu'on peut penser que le paradis, c'est mieux que l'enfer, mais qu'on doit tout de même beaucoup plus s'amuser en enfer qu'au paradis.
La vérité du platonisme demeure bien attachée au mythe de la caverne. Ce réel-ci est l'envers du monde réel, son ombre, son double. Et les événements du monde ne sont que les répliques des événements réels. Ils constituent les seconds moments d'une vérité dont le premier moment est ailleurs, dans l'autre monde. Tel est le sens de la théorie de la réminiscence qui enseigne qu'il ne saurait jamais y avoir en ce monde d'expérience véritablement première. Rien n'est jamais découvert. Tout est ici retrouvé. revenu à la mémoire à la faveur d'une retrouvaille avec l'idée originale.
Puisque rien dans le sensible, dans le monde sensible, ne vient nous satisfaire, alors détournons-nous de ce monde pour contempler un monde où, effectivement, là, le désir serait enfin satisfait. Alors, tout étant soumis au temps, tout étant soumis à la corruption, tout étant soumis à la disparition, à l'apparition. Effectivement, quel étrange monde qui veut se prétendre monde et où rien ne demeure, hein, où rien ne dure.
Ça, c'est ici-bas.
Ça, c'est ici-bas. Hein, vraiment, ce monde-là est vraiment décevant. Il est inconsistant, il est totalement même insignifiant. Dès lors, tournons-nous vers un monde qui tiendrait ses promesses de présence. Le problème, c'est que ce monde, malheureusement, ne se présente pas sous une forme sensible. Ah, mais quand même, on peut l'imaginer. Et de là à penser que de l'imagination au réel, il n'y a qu'un pas, c'est ce qu'accomplit la métaphysique. Voilà. La métaphysique nous donne comme certitude, voudrait nous donner comme certitude, je ne suis pas sûr qu'elle y ait jamais réussi, mais que ce monde si désirable que nous imaginons, et au sujet duquel d'ailleurs nous pouvons faire de beaux raisonnements, eh bien ce monde imaginaire est par conséquent, il suffit de changer, il est imaginaire, non, c'est vrai que c'est pas terrible imaginaire, donc idéal. Alors ce monde-là existe bel et bien, il suffit de faire un effort de regard, hein, c'est toute la leçon platonicienne, de la conversion du regard, de l'éducation du regard vers des idées qui seraient incorruptibles, qui seraient éternelles, etc.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le monde, comme par hasard, le monde, enfin disons le double, le monde idéal, est comme par hasard débarrassé de tout ce qui rend ici-bas notre désir décevant.
Exactement.
Il est débarrassé en premier lieu du temps, il est éternel. Il est débarrassé de la distance, les objets sont dans un état de transparence et d'immédiateté qui conjure la distance, c'est-à-dire le moment où le désir s'aiguise et devient douloureux. En d'autres termes, ce que dit Clément Rosset, c'est que la structure du monde métaphysique, de l'autre monde, est tout entière née de l'impossibilité que notre désir trouve ici-bas à se satisfaire.
Voilà. Et surtout, que l'on n'aille pas, disent les métaphysiciens, nous demander où se trouve ce monde où le désir trouverait à se satisfaire. Il est ailleurs. Baudelaire, anywhere out of the world. Hein, n'importe où, pourvu que ce soit hors du monde, c'est-à-dire hors du monde sensible. Donc, il faut appareiller, il faut lever l'ancre, la métaphysique nous invite à lever l'ancre, vers un monde qui est ailleurs. Donc, c'est l'exotisme absolu, l'étrangeté absolue, où le désir trouverait en effet, se retrouverait chez lui, finalement.
Anywhere out of the world, autre chose, une autre version qu'on me donne comme autre chose. Changeons la donne. Devant, c'est l'option qui résout le problème de la suppression de toute chose. Alors, c'est pas tout à fait une solution, hein, devant l'angle. Bref, c'est la mort, devant l'angle. Mais de toutes ces réflexions, j'ai acquis la conviction que la structure fondamentale de l'illusion était liée au double.
Il en va au fond de même lors de la réalisation de tout oracle. L'événement attendu vient coïncider avec lui-même, d'où précisément la surprise. Car on attendait quelque chose de différent, quoique voisin. La même chose, mais pas exactement de cette façon. C'est à cette coïncidence rigoureuse du prévu avec l'effectivement arrivé que se résume, en dernière analyse, tous les tours du destin, lequel délivre l'événement lui-même, ici et maintenant, alors qu'on l'attendait un peu différent, un peu ailleurs, et pas tout de suite.
Telle est la nature paradoxale de la surprise face à la réalisation des oracles, que de s'étonner alors qu'il n'y a précisément plus lieu de s'étonner, le fait ayant répondu exactement à la prévision. L'événement qu'on attendait s'est produit. Mais on s'aperçoit alors que ce qu'on attendait n'était pas cet événement-ci, mais un même événement sous une forme différente. On croyait attendre le même, mais en réalité, on attendait l'autre.
Clément Rosset, lui, s'empare à un moment de la question du destin, en parlant des oracles, et en expliquant cette chose tout à fait étonnante, qui est vraie, qu'on peut vérifier à chaque instant, qui est que c'est le caractère à la fois général et paradoxal des oracles, que de se réaliser, tout en surprenant par leur réalisation même. Alors, bon, Clément Rosset prend l'exemple d'Œdipe. Œdipe est stupéfait quand les prédictions adviennent, alors que il a juste fait en sorte, tout en voulant y échapper évidemment, c'est une des ruses du destin, il a fait en sorte qu'elles avaient, il a contribué à l'avènement de ces prédictions, dont l'avènement par ailleurs le sidère, le surprend et lui crève les yeux au sens propre. Par-delà cette question du destin dont on va reparler, voilà, tous les gens qui nous entourent doivent mourir un jour ou l'autre. Et pourtant, si parmi les gens qui nous entourent, nous élisons certains d'entre eux de notre affection, leur mort nous stupéfiera. Même si il n'est pas douteux qu'ils mourront un jour, comme nous-mêmes devons mourir un jour. C'est très étrange. À quoi tient la surprise qui est la nôtre quand quelqu'un qu'on aime disparaît, l'espèce de surprise, alors que rien n'est plus prévisible qu'une telle disparition?
Parce que je pense qu'on est tout de suite, dès lors qu'on pense, dans ces stratégies illusoires d'évitement. Et sitôt que le réel se rappelle dans notre bon souvenir sous la forme tragique dont vous parlez, alors effectivement nous sommes surpris. Nous nous y attendions, nous le savions, et effectivement ça ne manque pas de nous surprendre. Car, entre-temps, nous avions songé que peut-être il en serait autrement. Nous avions songé, nous sommes peut-être allés laisser aller plus loin dans cette espérance, et voilà. Donc, nous avons vécu avec nos proches comme s'ils étaient éternels, comme si nous-mêmes nous étions éternels, et la mort, tout à coup, qui est une des dimensions du réel, se rappelle dans sa banalité. Et je crois que c'est justement ça qui est douloureux.
C'est ça qui est très surprenant.
C'est que le réel est d'une banalité surprenante. D'une banalité inouïe. Inouïe au sens...
inédite.
Oui, inédite. Voilà. Alors que, en réalité, le réel, là, chez Clément Rosset, il y a des accents chopinoriens, le réel ne fait que se répéter dans une sorte de rengaine, finalement. On vit, on meurt, etc. Enfin, tout ça est d'une banalité tellement affligeante. Mais, et pourtant, on est surpris, comme si on était, effectivement, face à quelque chose d'extraordinaire.
Ce qui m'a, dans le mythe d'Œdipe, le plus intéressé, et que j'avais finalement oublié, c'est ce thème que Œdipe réalise l'oracle, tu tueras ton père, tu épouseras ta mère, en faisant tout pour l'éviter. Alors, deux choses. La première chose, c'est que c'était passionnant parce que l'idée qui a déclenché tout, c'est l'idée que réaliser l'oracle et éviter l'oracle, c'est la même chose. C'est justement en se protégeant contre ce qui lui était annoncé, que Œdipe réalise mot à mot, terme à terme, ce qui lui a été annoncé. C'est pourquoi j'ai eu cette révélation, en somme, que, contrairement à ce qu'on pense, on ne tombe pas du tout sous la ruse du destin qui fait que le destin se réalise, mais on le réalise soi-même, et on s'imagine fantasmatiquement que c'est par un biais détourné, par un piège diabolique qu'on est tombé dans lequel on est tombé quand on réalise l'oracle, par accident. Alors que, comme je le dis dans le livre, c'est la manière la plus simple pour Œdipe de réaliser l'oracle, la plus rapide, la plus sûre, c'est de faire ce qu'il fait.
En d'autres termes, vous ne dites pas que tout est écrit, vous dites que tout est là.
Tout est là. Voilà. Chaque chose qui arrive, arrive nécessairement, ou alors par le plus grand des hasards, ce qui revient strictement au même. Il y a chez Clément Rosset, et c'est là à mon avis où il vise juste, c'est qu'il ne fait pas de différence entre la notion de destin telle qu'on la conçoit ordinairement, c'est-à-dire tout est écrit, ou alors toute trajectoire existentielle dépend d'une providence qui préside à chaque instant, etc., ou alors carrément le hasard, car de toute façon ce qui arrive... C'est non pas que ça devait arriver, mais ce qui arrive, arrive.
Ne peut pas ne pas arriver.
Et ne peut pas ne pas arriver, puisque justement, voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre le possible et le réel. Ce qui est possible ne peut être que réel, et ce qui est réel n'était que possible. Et cette idée de possibilité d'un autre réel, c'est encore du double.
Mais vous avez raison. Si l'histoire d'Œdipe est passionnante, c'est que c'est une histoire à tous. On n'a pas besoin de passer par ces prédictions, ces oracles et ces tentatives de fuite. Nous sommes tous des édipes, c'est-à-dire que nous avons tous à lutter contre le fait de la tautologie qui est une manière de dire que ce qui est, est. Il ne peut pas ne pas être. C'est la parole de Parménide. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur Parménide qui démarre avec Parménide, principe de sagesse et de folie. Et j'ai écrit aussi un livre sur la tautologie, le démon de la tautologie, le démon de la tautologie. Tu ne peux pas faire que ce qui est ne soit pas. On peut changer de chemise, mais on peut pas changer de réalité. Alors c'est pourquoi mon livre n'est pas du tout un livre sur le destin, mais tout au contraire, un livre pour dénoncer l'idée de destin.
Avant de se lancer dans un dernier combat contre son propre destin, c'est-à-dire contre lui-même, Macbeth prononce les paroles fameuses.
La vie est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien.
La pensée du chaos et de l'insignifiance prend ainsi le dessus au moment du contact avec le réel. C'est que jusqu'à l'instant ultime, Macbeth, comme d'ailleurs tout homme, par exemple à l'heure de la mort, s'attend à ce que A diffère un tant soit peu de A, que l'événement ne soit pas exactement ce qu'il est. La coïncidence du réel avec lui-même, qui est d'un certain point de vue la simplicité même, la version la plus limpide du réel, apparaît comme l'absurdité majeure aux yeux de l'illusionné, c'est-à-dire de celui qui, jusqu'à la fin, a misé sur la grâce d'un double. Un réel qui n'est que le réel et rien d'autre est insignifiant, absurde, idiot, comme le dit Macbeth. Macbeth a d'ailleurs raison sur ce point, du moins. La réalité est effectivement idiote, car avant de signifier imbécile, idiot signifie simple, particulier, unique de son espèce. Telle est bien la réalité et l'ensemble des événements qui la composent, simple, particulière, unique, idiote.
Comment est-ce que Clément Rosset interpréterait aujourd'hui cette forme assez consensuelle de la subversion qui consiste à dire, avec les altermondialistes, avec les disciples de Guy Debord ou avec les marxistes tout simplement, que un autre monde est possible? Est-ce que finalement, en disant cette phrase et en brandissant cette phrase comme une possibilité donc, l'altermondialiste, pour citer lui, dont le vocable lui-même signifie ça, l'altermondialiste, c'est-à-dire le tenant d'un autre monde, est-ce que l'altermondialiste ne fait pas tout simplement de la métaphysique, hein, ne cède pas à la même illusion?
Ah, mais je pense qu'il y a dans le discours critique à l'égard du monde tel qu'il est, je pense qu'il y a en effet une métaphysique qui s'ignore. J'ignore si Monsieur Beauvais est un platonicien, ces sbires sont des disciples de Platon ou d'autres, hein, mais en fait c'est une pensée folle. Hein. C'est justement parce que le monde qu'ils espèrent, qu'ils attendent, hein, qu'ils espèrent n'est pas présent, parce qu'il est meilleur. Parce qu'il est meilleur dans leur imaginaire, parce qu'il est meilleur dans leurs vœux, parce qu'il est meilleur, parce qu'ils le désirent meilleur, cette espérance-là de meilleur dote leur monde d'une plus grande puissance ontologique. À tel point que le monde...
Comment on dit, moins il est présent, plus il existe.
Qu'est-ce que tu veux? Autre chose. Quoi? Autre chose. Et pas le monde, autre chose. Bon, il y a un double fantasmatique qui pourrait se substituer à la réalité. C'est la forme, bon, il y a la forme cynique, la forme rousseauiste, mais c'est monde de bord, d'une part, d'autre part, cette idée d'altermondialisme, le terme même dit l'illusion et dit le double. Enfin, alter, ça veut dire l'autre. C'est pas un autre, c'est l'autre. Il y a, l'autre, c'est Alius. Mais alter, c'est pas ce monde-ci, mais l'autre, celui qui est bon. C'est le vrai. Celui qui est bon, c'est ce monde-là que nous voulons. Quel est-il? Non, on ne sait rien. On peut pas caricaturer de manière aussi nette et aussi formelle, ni confesser l'absurdité du propos que le mot même, qu'en utilisant, en se recommandant, que le fait de se recommander, je m'excuse, de l'altermondialisme. C'est-à-dire, mon cynique, quand même, mille l'ont dit, Le monde, non. Un autre monde, oui. On ne peut pas résumer mieux la folie, hein, ce que j'appelle la folie, ou ce que j'appelle l'illusion du double.
Ce qu'il est essentiel, là, de voir, c'est que chez Clément Rosset, il n'y a strictement aucune considération morale. Clément Rosset, en tant que philosophe du réel, et de l'acceptation du réel tel qu'il est, on ne peut pas attendre de lui la moindre philosophie morale qui, justement, aborderait les thèmes de qu'est-ce qui a été spolié, qu'est-ce qui a été aliéné, etc. Enfin, ça n'entre vraiment pas en ligne de compte chez lui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lui fait souvent grief d'être un philosophe immoraliste, voire immoral, d'être insensible aux douleurs du monde, d'être apolitique, mais on sait les lourds reproches qui se cachent, n'est-ce pas, dans ce qualificatif de apolitique. Quand on dit de quelqu'un, oui, il se prétend apolitique, mais en réalité, on voit bien que derrière cet apolitisme se cache un immoralisme terrible ou je ne sais quelle perversité.
La loi du plus fort, etc.
Voilà, etc. Bon, hein, bon. Eh bien, voilà, Clément Rosset, je crois, a pâti très longtemps de ça. D'ailleurs, il en a tellement pâti qu'à un moment donné, il s'est mis en colère. Alors, il faudra l'excuser pour son moment d'humeur, mais il a écrit, je crois que c'est dans le Démon de la tautologie, en annexe de ce petit livre, je crois que c'est dans ce volume-là, il a écrit un tout petit texte qui s'intitule « Cinq pièces morales », où il explique en réalité pourquoi la problématique de la morale ne l'intéresse absolument pas, parce que ça ne l'affecte pas, effectivement. Et à la limite, il est prêt à endosser la réputation de philosophie moraliste ou immorale. Il s'en fiche. Enfin, ça ne l'atteint même pas.
Tout dépend de ce qu'on entend par morale. J'ai tendance à simuler morale à ressentiment. C'est un héritage de Nietzsche. Non, c'est pas une pensée originale. Mais je soupçonne toujours le discours moral, l'intention morale, d'être animé par le ressentiment. Je trouve que sur ce point, Nietzsche a eu complètement raison. Je ne vois pas comment on peut lui donner tort. Alors, pour moi, immoraliste, ça ne veut pas du tout dire ignorer toute loi, tout principe, ou enfin, toute user de cruauté sans limite à l'égard de son semblable. Pas du tout. Pour moi, ceux qui nuisent à autrui sont d'abord les moralistes, et l'immoralisme tel que je pourrais me l'attribuer, consiste à être constamment le plus gentil, essayer d'être le plus gentil avec tout le monde. Et c'est un principe de convivialité, et je n'oserais dire d'amour, hein, mais... Enfin, par rapport à l'immoralisme, c'est pas du tout ça. C'est le refus de s'associer à des entreprises qui ont une façade généreuse, mais une origine... et qui l'est beaucoup moins.
Dans Le Gréel et son double, il y a comme une insert, un moment formidable, une phrase de Clément Rosset, une ligne et demie. Hein. Il dit, sois ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment est-ce qu'on peut être l'ami du présent qui passe?
Je crois que être l'ami du présent qui passe nécessite tout sauf de la philosophie ou de la réflexion. Je crois que être l'ami du présent qui passe, c'est tout simplement être inconscient. Alors, une philosophie dira non, pas de l'inconscience, de l'insouciance. Et l'insouciance se prépare, se travaille. Mais là, il n'y a aucune éthique chez Clément Rosset, une éthique stoïcienne, par exemple, qui nous inviterait à encaisser le destin tel qu'il nous arrive. Non, être l'ami du présent qui passe, c'est seulement vie, et vie et tais-toi.
Pour moi, c'est... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais si je vais garder une phrase de moi, je garderai celle-là.